Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 2 avril 2026. Et comme hier c'était le 1er avril, et ben quand on se penche sur l'actualité aujourd'hui, ben on fait quand même toujours un petit peu attention d'être sûr que c'est pas une blague, parce qu'il y a des actus qui sont aujourd'hui tellement dingues qu'au début on se dit waouh, et puis après on se dit non, c'est pas possible, c'est une blague, et puis en fait si, c'est vrai. Donc voilà, je ne vous ai pas mis de blague dans ces nouvelles du monde. Je peux quand même vous citer celle qui m'a fait le plus marrer, parce que j'y ai cru, c'était que Rihanna aurait été aperçue au carnaval de la Plaine. Et c'est assez probable, vu qu'elle était en France, elle était à Épinal il y a quelques jours, je crois, pour acheter une baraque, visiblement. Bah, j'avoue, j'y ai cru, voilà. Mais on va donc aujourd'hui parler du rapport entre les ventes d'armes de la France et Israël, qui s'arrête, même s'il n'existait assez peu, mais au moins on fera un petit peu le clair dessus avec Mediapart, qui nous fait un petit bilan là-dessus, et de manière générale, sur l'implication de la France dans la guerre en ce moment donné au Moyen-Orient. On va parler de la loi Yadan, qui va entrer en discussion à l'Assemblée à partir de la mi-avril, des bénéfices monstres générés par les pétroliers et notamment par Total Energy depuis le début de la guerre. On pourrait presque parler même de délits d'initiés. Et enfin, la Cour des comptes qui s'attaque à toutes les exonérations fiscales et autres niches dont bénéficie le patronat, on va dire, en France depuis au moins une vingtaine d'années. Voilà, des chiffres relevés par Attaque France. Voilà. Et on fera un petit correctif, petit complément d'information sur la question du cadmium et notamment de son rapport avec l'alimentation biologique. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Un petit dossier donc sur les ventes d'armes de la France et d'Israël, dans les deux sens, on va voir ça. Tout d'abord, c'est donc Mediapart qui s'intéresse à cette question et qui titre « Une fin de partie peu glorieuse pour la diplomatie française ». En effet, il rappelle que la France n'a jamais osé prononcer d'embargo complet sur les livraisons d'armes vers Israël et que c'est le gouvernement israélien, donc le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui a fini par s'en charger lui-même en refusant d'acheter français. Cette décision est surtout symbolique, hein, on va le voir, mais elle renvoie quand même Paris à ses propres renoncements. Ça fait 2 ans, en dépit de la prise de conscience progressive qu'un génocide est en cours à Gaza, et ce malgré la mobilisation d'associations et de syndicats, que ni l'Élysée, ni le ministère des Affaires étrangères, ni celui des armées n'ont donc assumé de prononcer un boycott complet des exportations d'armes et de composants d'armes français vers Israël. Ainsi, même quand la Cour internationale de justice alertait en janvier 2024 sur le risque plausible de génocide commis par l'armée israélienne à Gaza, les mêmes soutenaient qu'un embargo n'était pas nécessaire car la France ne vendait pas d'armes à Israël. Est-ce qu'on en vend, est-ce qu'on n'en vend pas? C'était surtout une manière de jouer sur les mots, puisque la France exporte bien vers Israël, mais plutôt des composants d'armes, des pièces qui sont ensuite assemblées ailleurs. Lorsque des enquêtes de presse ont justement démontré ça, le ministre des Armées finalement a accepté de s'expliquer, et il a dit non, mais les composants ne font que transiter vers Israël, et ensuite ils sont réexpédiés, puisque la France et Israël visiblement collaborent dans la fabrication d'armes, donc certaines pièces viennent de France, sont faites en Israël, qui vous le savez aussi, est un grand fabricant, voire même un leader et un pionnier mondial, et donc ensuite repartait ailleurs. Le tout, disait-il, représente de toute façon des volumes très faibles. Mais tout cela sans jamais répondre à la question, si ces volumes sont si faibles, pourquoi justement ne pas arrêter et ne prononcer un embargo qui donc n'aurait aucun impact sur l'industrie française, mais aurait été en revanche un signal politique et diplomatique fort. Et bien donc cet épilogue, c'est Benjamin Netanyahou qu'il a écrit un épilogue sans gloire et sans panache pour l'exécutif, l'État israélien annonce mettre fin à ses achats d'équipements militaires en provenance de l'Hexagone. À savoir exactement les mots, c'est le directeur général du ministère a décidé de ramener à zéro les achats de dépenses effectués en France et va réorienter ses fonds vers des achats bleus et blancs, les couleurs du drapeau israélien, ou vers des pays alliés, Sous-entendu, la France n'en est pas un. Ça, c'était une porte-parole du ministère de la Défense israélien qu'il déclarait à l'AFP ce 31 mars. La mesure, donc, vous l'aurez compris, elle est surtout symbolique. La France n'est pas un fournisseur clé pour Israël. 2024, c'est la dernière année où on a des chiffres. Ça représentait 16,1 millions d'euros d'équipement militaire de la France vers Tel Aviv. Et les prises de commandes, elles, à hauteur de 27 millions d'euros. On peut citer d'autres chiffres pour se rendre compte. L'Irak, ça représente 1,25 milliard d'euros. 718 millions pour les Émirats arabes unis ou 170 millions pour l'Arabie saoudite qui vendent des armes à Israël. Cette annonce a fait suite à un autre épisode d'ailleurs symptomatique de cette posture française, hein, enfin si c'en est une. C'est l'imbroglio autour de la question des avions qui passent par la France pour aller faire la guerre en Iran. Depuis le déclenchement de cette guerre le 28 février, l'armée états-unienne fait en effet transiter par l'Europe des troupes et des équipements. Contrairement à l'Espagne hein, qui elle, a refusé l'utilisation par Washington de deux bases militaires situées sur son territoire, la France, elle, a d'abord autorisé, sous condition, le transit donc de ces avions états-uniens. La position française se voulait sans doute subtile, rail Mediapart, puisque des avions ont bien été acceptés sur la base de Istres, hein, pas loin de Marseille. C'est ce que faisait savoir l'état-major des armées début mars. Mais seulement après avoir obtenu la complète garantie des États-Unis que les appareils concernés ne participaient en aucune mesure aux opérations menées en Iran. Alors on se demande bien à quoi servaient ces avions. Alors la distinction entre des appareils qui participeraient aux opérations et ceux qui ne le feraient pas, hein, d'après le ministère, l'état-major des armées, c'est assez peu évident, puisque les avions peuvent tout à fait ne pas envoyer de bombes, mais les avions de soutien logistique vont de fait participer à la guerre, hein, amener, je sais pas, de la bouffe, des troupes, tout le reste. En tout cas, comme pour la décision donc, de ne pas prononcer d'embargo sur les ventes d'armes en Israël, le refus d'assumer un choix ferme avec ces avions qui partent pour la guerre en Iran, tout cela a fini par se retourner contre Paris. Malgré la fuite en avant insensée de Washington et de Tel Aviv dans ce conflit qui embrase le Moyen-Orient et peut-être même le monde entier, malgré le fait que l'armée israélienne a menacé et a tiré sur des casques bleus français, hein, ceux qui font partie de la FINUL, la force intermédiaire des Nations Unies au Liban, eh bien la France n'a toujours pas décidé officiellement de fermer son espace aérien et d'interdire l'utilisation de ses bases militaires à tout avion états-unien ou israélien jusqu'à la fin de la guerre. Pourquoi ça? Eh bien, il semblerait que le gouvernement veuille garder les faveurs du président Trump pour qu'il n'abandonne pas l'Ukraine, pour ce qu'il a pourtant déjà fait. Et il voudrait aussi, parallèlement, ménager une relation diplomatique avec Israël, qui, souligne Mediapart, n'existe certainement plus que dans son esprit. On peut citer Eli Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, qui dit « Le gouvernement israélien n'a pas de diplomatie. C'est une illusion. Son seul mantra, c'est l'insulte et le coup de poing. » Et il ajoute d'ailleurs à propos de la position française, se faire cracher au visage et s'essuyer en disant qu'il pleut ne mène à rien. Voilà, donc toutes ces réticences et pudeurs de l'exécutif français ne l'ont pas empêché d'ailleurs de se faire incendier par Donald Trump, qui a accusé la France, en majuscule, comme il fait souvent, comme les vieux sur Twitter, d'être très peu coopérative et a juré que les États-Unis se souviendraient de cela. Voilà, donc la France va subir les conséquences de décisions qu'elle n'a pas osé prendre, hein. C'est ce que certains appellent le « en même temps ». On peut faire un petit parallèle, d'ailleurs, un autre petit article de Mediapart s'intéresse, bah, vu qu'Israël est fabricant d'armes aussi, dans l'autre sens, au transit qui se font dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on peut lire? Eh bien, que la dépendance française existe, elle, bien et bien, face aux cartouches israéliennes. Selon un rapport d'information parlementaire, donc qui n'est pas encore rendu public, mais que Mediapart a lu, la France connaîtrait une forte dépendance vis-à-vis d'Israël pour ce type particulier d'équipement militaire, à savoir donc les cartouches de 5,56 mm, ce sont celles qu'on met dans les fusils d'assaut. Le co-rapporteur de ce texte qui porte sur les dépendances militaires françaises vis-à-vis de l'étranger, qui est l'insoumis Aurélien Saint-Toul, souligne donc pour lui la nécessité de s'en affranchir. Selon les informations de Mediapart, le fabricant de ces fameuses cartouches 5,56 serait Elbit Systems, un des principaux fournisseurs de l'armée israélienne. Je vous avais parlé d'une action qui avait été menée au Royaume-Uni contre le siège de Elbit. L'entreprise produit aussi le drone Hermes 450, qui a tué par exemple 7 humanitaires de l'ONG World Central Kitchen à Gaza. C'était le 1er avril 2024. Ils produisent aussi les bombes MPR 500, dont un exemplaire a tué 7 bénévoles de services de secours au Liban en mars 2024. Ça, c'est Human Rights Watch, l'ONG qui rapporte ces faits. Le ministère des Armées français n'a pas souhaité répondre aux questions de Mediapart. Et on termine avec ce petit fait aussi qui n'a pas encore été trop relayé chez nous. Des vidéos montrent le barrage des eaux usées d'Israël vers le Wadi Gaza qui est ouvert. Donc ils ont ouvert les eaux, ce qui envoie les eaux usées dans ce fleuve, le polluant et provoquant le mélange donc, de tous les déchets non traités, des eaux grises, avec l'eau de mer, ce qui pollue l'environnement côtier à mesure que les eaux usées s'écoulent dans la vallée et vont se jeter dans la Méditerranée. Et il faut savoir que ce fleuve, le Wadi Gaza, c'est un fleuve et une voie navigable saisonnière et c'est surtout la seule source d'eau de surface importante à Gaza.
Ah, les ras-bol, tout ça, mais c'était que vraiment la fin.
Et puisqu'on parle de la guerre, un petit tour par le carnaval indépendant de la plaine Marseille qui a eu lieu là ce week-end, ce dimanche, et ça avait déjà un petit peu commencé ce samedi, toujours beaucoup beaucoup de monde, des milliers de participants et participantes réunis alors en plus de la suite des élections municipales, et bien pour dénoncer la guerre, c'était le thème, une édition encore très politique, dénonçant les guerres et les belligérants qui secouent actuellement le monde. Une année d'élection municipale, donc il y avait quand même de quoi faire avec notamment le visage de Franck Alizio, candidat RN à la mairie de Marseille, qui était placardé à côté de celui de Jordan Bardella. Mais c'est surtout Martine Vassal qui a trinqué. En plus de sa photo sur un char peu flatteur, impossible de ne pas voir la devise pétainiste qu'elle avait reprise en plein débat. Oui, elle avait dit que nos valeurs n'ont pas changé depuis un siècle, elles se fondent sur le travail, la famille et la patrie. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'a repris le juge qui a officié au procès du Carmontran, le monsieur Carnaval, et l'avocat de la défense. Sauf que la candidate de la droite et du centre, qui avait demandé justement à l'annulation de ce carnaval, mais elle s'était trompée de date, la pauvre, n'était pas la seule cliente des accusations du peuple en colère. La justice a en effet reproché à l'accusé, donc Carnaval, d'avoir organisé la fascisation du monde en mettant la peur et la haine au centre des débats, la militarisation des corps et des esprits, et bientôt une troisième guerre mondiale. Une édition donc encore très réussie et festive qui a dénoncé les guerres et les belligérants. Ça s'est quand même fini un petit peu dans les gaz lacrymogènes et quelques échauffourées avec la police qui avait pour mission normalement de vider la place à 19h, mais ils ont quand même attendu 22h. Les présidents américains et israéliens étaient représentés sur la face d'un même homme aux deux visages, hein, moitié Trumpette et moitié Nathan Voyou.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
On va parler maintenant de la loi Yadan, qui soulève de nombreuses oppositions en France et qui va être discutée très, très, très bientôt par les parlementaires. Certains l'appellent la machine à censure. C'est une proposition de loi pour l'instant donc de Caroline Yadan, qui est apparentée Renaissance et qui a pour objectif de lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Ce projet de loi suscite la controverse à gauche et promet quelques joutes parlementaires. Des avocats, universitaires ou collectifs juifs ont d'ailleurs également émis leur opposition. C'est ce qu'on peut lire par exemple dans les colonnes de La Voix du Nord. Caroline Yadan, c'est la députée de la circonscription des Français de l'étranger qui englobe Israël. Elle est donc assez fervente défenseur de la politique israélienne du moment. Et cette proposition de loi, qui porte son nom, entend répondre à l'explosion des actes antisémites et sous ses formes renouvelées depuis l'attaque sans précédent du Hamas du 7 octobre 2023. Elle dit « Il y a toujours, hélas, une bonne raison de haïr les Juifs. Aujourd'hui, cette bonne raison se nomme Israël. Le désir d'anéantissement renaît de ses cendres. Le peuple paria a laissé place à l'État paria, mais l'intention demeure la même, délégitimer, exclure, effacer les Juifs de la surface de la terre. » Adoptée en commission des lois le 20 janvier, sa proposition de loi sera donc débattue à l'Assemblée les 16 et 17 avril. Certains ont voulu avancer la date de ces débats, mais finalement, ça n'a pas été possible. Et en attendant, de nombreuses voix donc, se font entendre en France, se soulevant contre son adoption et notamment la manière dont le texte est formulé. Concrètement, il compte renforcer la répression de l'apologie du terrorisme et instaure un nouveau délit qui est puni de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende pour provocation à la destruction ou à la négation d'un État, à savoir l'État d'Israël. Cette loi prévoit de sanctionner des propos jugés implicites ou de banalisation, ce qui va élargir donc le champ des poursuites, mais soulève donc, vous le comprendrez, des inquiétudes sur la liberté d'expression. Le syndicat des avocats de France explique par exemple que ce texte reste dangereux à la fois pour la liberté d'expression, mais aussi pour la lutte contre l'antisémitisme. par le contrôle de l'implicite. C'est une véritable et hasardeuse police de la pensée auquel devrait se livrer le juge pénal, écrit le syndicat des avocats de France. Cette proposition de loi, qui est présentée comme transpartisane, a été signée par des élus des trois groupes de l'ancienne majorité présidentielle, à savoir Ensemble pour la République, les démocrates, Haut et Horizon, mais aussi le groupe Droite républicaine, le groupe centriste Liberté indépendant, Outre-mer et territoire, et quelques députés socialistes. Par exemple, François Hollande. Pour sa part, Olivier Faure, lui, premier secrétaire du PS, a déjà fait savoir qu'il était contre, et il a dit publiquement que combattre l'antisémitisme ne pouvait pas passer par la proposition de loi Yadan. Ce texte pose un problème de fond, explique Sandrine Rousseau, écologiste et sociale. Le texte repose sur une confusion contestable et même dangereuse entre l'antisémitisme, la critique de l'État d'Israël et celle de la politique menée par celui-ci. Votre proposition de loi organise une confusion volontaire et dangereuse entre une haine raciste et la critique légitime d'une idéologie politique et d'un État. Ça, ce sont les mots de la communiste Elsa Faucillon, appuyée par les insoumis, par l'insoumis Gabriel Catala, qui, elle, a estimé que le texte ne permettait pas de lutter contre l'antisémitisme, mais qu'il protégeait une politique, celle de l'État d'Israël. Ce point de vue est d'ailleurs partagé par des universitaires qui ont publié une tribune dans le journal Le Monde. Eux dénoncent ce texte qui confond volontairement antisionisme et antisémitisme. Sans compter, disent-ils, qu'en traitant l'antisémitisme comme une catégorie à part, détachée des principes généraux de la lutte contre la discrimination, eh bien que le législateur risque d'encourager une hiérarchisation des discriminations et une concurrence mémorielle, préjudiciable à l'universalité du combat antiraciste. L'Union juive française pour la paix réagit elle aussi de son côté. Elle a appelé les députés à rejeter le texte. La loi Yadan, véritable machine à censure et accélérateur d'antisémitisme, doit être rejetée, a écrit donc l'Union juive française pour la paix. Alors les réponses de la principale intéressée, Caroline Yadan, dans une interview donnée au Point, elle explique que l'offensive contre son texte est menée par les insoumis. Et dit-elle, contrairement aux rumeurs et aux affirmations erronées qui circulent, cette proposition de loi n'a pas vocation à interdire la critique d'un gouvernement et elle ne limite en rien le soutien au peuple palestinien, affirme-t-elle. D'ailleurs, le Premier ministre Sébastien Lecornu l'a soutenu. Lors du dîner du CRIF, le 20 février 2026, celui-ci dénonçait une stratégie sémantique capable de frapper sans assumer. Aujourd'hui, disent-ils, se dire antisioniste, ce n'est pas critiquer une politique, c'est contester le droit même d'Israël à exister. Et il a annoncé que la programmation de cette proposition de loi Yadan aux travaux de l'Assemblée nationale, et c'est lui qui a annoncé du coup les dates de la proposition de loi, qui, je vous le disais, sera donc débattue les 16 et 17 avril. Alors, on reste toujours dans les affres de la guerre au Moyen-Orient, avec un article qui a été mis sous presse cette semaine du Financial Times. On y apprend, donc dans ce quotidien britannique qui s'intéresse à l'économie, que Total Energy, le géant français du pétrole et des énergies fossiles, serait parvenu à engranger plus $1 milliard, c'est exactement 868 millions d'euros, grâce à une opération de spéculation qu'ils ont débutée au mois de mars. D'après Adi Imsirovic, qui est maître de conférence en système énergétique à Oxford, à l'université d'Oxford, il s'agirait potentiellement de la plus importante prise de position jamais réalisée dans l'histoire des marchés pétroliers. Et oui, c'est Total Energy qui aurait en effet acheté la cargaison d'environ 70 bateaux pétroliers, ça représente 34 millions de barils, des pétroliers qui venaient de Oman et des Émirats Arabes Unis, issus de voies d'acheminement qui contournent le droit de détroit d'Ormuz, puisque Oman et les Émirats Arabes Unis sont les deux seuls pays du Moyen-Orient producteurs d'hydrocarbures avec l'Iran qui ont une façade directe sur l'océan Indien, donc ils ne sont pas obligés de passer par le détroit d'Ormuz. Et donc Total Energy, en mars, a mis de côté 70 bateaux pétroliers en les achetant. Ça représente plus du double de ce qu'ils faisaient au mois de février. Donc c'était un achat qui visiblement était motivé dans l'optique certainement de l'augmentation des prix. L'opération a un objectif simple, détourner une partie du pétrole produit et le stocker sans le vendre. Donc ils l'ont gelé, ils l'ont mis de côté. Le temps évidemment que les prix s'envolent à la suite du blocus du détroit d'Ormuz et des bombardements des infrastructures pétrolières et gazières du Moyen-Orient. Cette opération a permis donc de faire grimper artificiellement la différence entre le prix de vente et les coûts de production pour l'entreprise. Ouais, c'est aussi des manœuvres comptables. C'est $1 milliard donc, qui sont tirés de cette opération ne sont donc pas tombés du ciel, hein, puisqu'il s'agisse très précisément d'un transfert d'argent de la part des consommateurs, vous et moi, vers les actionnaires de Total, qui profitent donc d'une guerre impérialiste pour spéculer sur les risques de pénurie et faire grimper les prix bien au-delà du choc qui est induit par la guerre. Les petites saillies anti-impérialistes sont signées du média Révolution Permanente. Alors qu'entre le 27 février, donc la veille de l'agression israélo-états-unienne de l'Iran, et ce mercredi 1er avril, à côté de cela, les actions des entreprises du CAC 40 perdaient un peu moins de 7% de leur valeur en moyenne à cause du choc. Eh bien, Total Energy, eux, ont fait un bond de 19% sur la même période. Et si on remonte un petit peu plus loin, jusqu'au 2 janvier, là, c'était la veille de l'opération des États-Unis contre le Venezuela, qui a quand même un petit peu les mêmes tenants et aboutissants, eh bien, on peut constater que le prix de l'action de Total s'est fait une jolie petite remontée de 40% sur les 3 derniers mois. Bien joué, les gars. Allez, puisqu'on parle de justice fiscale, ou plutôt d'injustice fiscale, on va faire un petit tour sur le site de ATTAC, A-D-T-A-C, vous vous rappelez, cette ONG qui s'attaque notamment à la taxation des plus riches et de la finance de manière générale. Eh bien, elle nous fait un petit retour sur un rapport de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport donc, sur la sécurité sociale. Dans sa dernière édition, donc pour cette année, elle revient sur le coût abyssal des niches sociales, et notamment les niches des allègements généraux, donc les allègements en charge, qui représentent l'essentiel des différents allègements des cotisations sociales. C'est un peu technique, mais vous allez voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le diagnostic donc posé par la Cour des comptes, il est limpide. Le manque à gagner, qui a été provoqué par tous ces allègements généraux, est en forte augmentation. Ça n'a cessé d'augmenter jusqu'à 2024 et il y a même déjà les chiffres de 2025. Ainsi, la Cour des comptes a calculé qu'entre 2014 et 2024, donc sur une décennie, le total des allègements généraux de cotisations patronales du secteur privé a presque été multiplié par 4. On est passé des allègements de presque 21 milliards à 77 milliards d'euros. Et depuis, il y a eu les chiffres de 2025 qui sont tombés, on est à 85 milliards. Donc des milliards en moins qui rentrent dans les caisses de l'État et que les patrons ne doivent pas débourser, notamment à travers, par exemple, dans vos fiches de paye sur les différentes petites cases des cotisations. Je vous donne un petit peu de détails. La baisse des taux des cotisations pour les allocations familiales, hein, moins 1,8 points. Les cotisations d'assurance maladie, baisse de 6 points du taux. On peut parler des réductions générales régressives concernant l'assurance chômage, les retraites complémentaires aussi, Agirc-Arrco, et le Fonds national d'aide au logement, et aussi la part de la sécurité sociale. Toutes ces petites cases en moins qui ont fait à un moment donné, en plus, qu'ils ont pu dire « Ah, bah regardez, votre revenu net va augmenter ». Mais évidemment, tous ces sous qui ne sont pas dépensés dans les cotisations, bah après, on ne les retrouve pas au niveau des prestations de l'État. La Cour des comptes confirme donc la teneur des critiques qui sont adressées à tous ces dispositifs d'allègement et elle pointe plusieurs enjeux liés à ce problème. Déjà, elle constate que l'allègement du coût du travail, permis par ces allègements, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, de permettre au patron d'embaucher plus facilement en disant que ça coûte trop cher les salaires, eh bien que cela n'est pas suffisamment piloté ou évalué. C'est une critique assez lourde à l'heure où les pouvoirs publics prétendent passer en revue l'ensemble des dépenses publiques, avec des budgets à chaque fois où on demande de faire des coupes. Et ces niches font partie des dépenses publiques, tout ça sous couvert d'améliorer la gestion et la performance des différents organismes. La Cour des comptes relève par ailleurs que ces dispositifs sont souvent accordés sans aucune condition, en faveur de l'emploi, ou de la compétitivité des entreprises, et que derrière, on ne vient pas justement vérifier si ça a des effets positifs. Ce qui ramène donc au fameux débat sur la conditionnalité des aides aux entreprises, qui sont majoritairement donc des aides sous forme de niches fiscales ou sociales. Et enfin, la Cour des comptes met en garde les partisans de ces allègements, parce qu'il y en a toujours, on est quand même dans une période très libérale, pour qui ces derniers donc, doivent être maintenus, et elle parle des effets complexes à évaluer pour l'avenir, et que justement le débat sur les effets de ces allègements n'est pas tranché. À savoir même que les derniers travaux des économistes, par exemple Antoine Bozio et Étienne Vasmer, datant de 2024, montrent plutôt que les effets seraient assez négatifs. Ils montrent que les allègements ne seraient par exemple pas du tout efficaces, notamment pour améliorer l'embauche et aider les patrons à embaucher en gros. Et si on revient sur les chiffres, l'accumulation de ces mesures d'allègements généraux des cotisations sociales non compensées ou compensées partiellement, tout cela alimente les déficits de la sécurité sociale et l'augmentation de la dette sociale. De 2019 à 2024, la perte annuelle estimée est passée de 2,4 milliards à 5,5 milliards d'euros. De manière générale, vous l'aurez donc compris, tout cela pointe une fragilisation du financement de la sécurité sociale qu'il va falloir endiguer et une perte financière croissante qui augmente la dette sociale. Voilà, et là, c'est pas Attac qui parle, c'est la Cour des comptes. Le coût de ces dispositifs, si on regarde la globalité, c'est 85 milliards d'euros de manque à gagner pour les finances sociales. On peut rajouter les niches fiscales, environ 86 milliards d'euros de manque à gagner, et les niches fiscales dites déclassées, alors là, me demandez pas, c'est de la technique de comptable, mais ça fait 40 milliards d'euros. Tout ça, en tout cas, si on les met ensemble, et là, c'est Attac qui fait l'addition, ça dépasse les 200 milliards d'euros. Voilà, en effectuer une revue d'ensemble afin d'en limiter le coût et le nombre n'est plus une option, mais une nécessité, conclut justement cet article de Attac France.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
Allez, on termine, on revient un petit peu plus dans des considérations terre à terre. Je vous ai parlé ce mardi, je crois, de l'énorme pollution au cadmium qui touche quasiment toute la filière agricole et donc de l'alimentaire, notamment française. On est très, très, très spécialement impacté. Et dans ce rapport de l'ANSES, bah justement, il y avait juste une petite phrase, une mention par rapport à l'agriculture biologique qui disait que ouais, c'était qu'elle n'était pas du tout exemptée, qu'elle était aussi contaminée que les autres. En tout cas, ils ne rentraient pas dans les détails. Et bah justement, c'est la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui réagit et qui s'offusque d'ailleurs de la manière dont c'est traité dans ce document, à savoir ce qui s'est passé en amont. Peut-être qu'on aura des révélations par le futur. En tout cas, voilà, un petit article dans le journal Reporter vient réagir à tout cela. Et donc, en rappelant que l'ANSES estimait que l'agriculture bio n'était pas à l'abri du cadmium, un métal toxique, mais que certaines données encore fragiles suggèrent, elles, pour contre, bien un avantage en faveur du bio. Alors, c'est une polémique, quand même, face à l'omniprésence du cadmium dans l'alimentation des Français. Est-ce que manger bio peut, oui ou non, nous protéger ? Le 25 mars, c'était l'Agence de sécurité sanitaire qui tirait l'alerte sur la pollution au cadmium, mais refusait de dissoudre l'agriculture biologique. Les mots exacts, c'était que le bio était potentiellement concerné également, en n'interdisant pas les fertilisants contenant du cadmium. Ok, elle n'est pas interdite, mais quand même, quand on parle de contamination, les chiffres comptent, et entre 10 et 80, par exemple, il y a des grosses différences. Donc cette position a provoqué la colère des cultivateurs bio. Je vous le disais, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la FNAB, dénonce cette comparaison factuellement erronée qui met le bio et le conventionnel sur un pied d'égalité, et elle réclame donc un correctif à l'ANSES. En attendant le correctif de l'ANSES, vous aurez le mien donc à cette antenne. Alors, on rappelle quand même que la principale voie d'exposition au cadmium, c'est se fait par l'alimentation, c'est ce qu'on mange. Ce métal qui est classé cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction, est présent notamment dans les fertilisants phosphatés, puis absorbé par la terre, puis il remonte par les racines dans les plantes et finit donc dans nos assiettes. Ce qui expliquait notamment que c'était en grande partie avec les céréales que cette intoxication se faisait. Ceci, les fertilisants phosphatés sont autorisés comme engrais en agriculture biologique. Donc les roches phosphatées broyées, c'est comme ça qu'on le produit. Hein. On prend des mines et puis on les écrase. Il y en a notamment pas mal au Maroc. Donc effectivement, le cadmium peut être dedans. Mais dans les faits, le chercheur explique que l'usage de ces engrais phosphatés est assez marginal dans le bio, puisque ceci, les agriculteurs bio préfèrent souvent des engrais organiques. Mais ce n'est pas interdit. Donc voilà, dans les papiers, la contamination peut exister. Donc les cultures bio subissent aussi la présence du cadmium, qui est déjà présent dans les sols. Ça, c'est valable pour tout le monde, qu'il soit naturel, parce qu'il y en a naturellement, ou issu d'une ancienne pollution, selon ce qui a pu se passer dans les terres ou aux alentours. Le composé, en effet, peut persister pendant des décennies dans les sols. Alors, qu'est-ce qui reste après de tout cela dans l'assiette ? Bon, c'est une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse d'analyse, publié en 2014 dans le British Journal of Nutrition, qui donne des arguments en faveur du bio. Cette analyse donc synthétise les résultats de 343 études. Bon, on n'est pas sur la France, mais on est sur plutôt une... C'est pas spécifiquement en France, je veux dire, mais bon, c'est quand même éclairant. Et elle conclut donc qu'une teneur en cadmium des aliments bio est inférieure de 48% en moyenne à celle de ceux qui sont donc dits dans les filières conventionnelles. Eh bien, cette étude, qui est quand même importante, elle n'a même pas été mentionnée dans les travaux de l'ANSES, donc dans les travaux qui viennent d'être mis à jour ce 25 mars. Ce qui étonne la Fédération française des agriculteurs de l'agriculture biologique. Les détails de cette analyse donc, de 2014 montrent un effet assez clair pour les céréales, mais moins pour les légumes, cela dit, parce que les légumes ont peut-être des pouvoirs de fixation différents, donc on ne peut pas les mettre tous dans, dans le même panier, j'ai envie de dire. Dans la littérature scientifique, on peut lire donc dans cette analyse, on observe qu'en moyenne, le bio est moins contaminé, mais il y a des exceptions parmi les légumes qui vont mettre en lumière le besoin de mieux comprendre ces mécanismes. Et donc le chercheur qui parle de cette méta-analyse souligne le manque de données qui est spécifique à la France, donc il y a du boulot à faire. En tout cas, la conclusion, c'est que manger bio peut aider à limiter son exposition au cadmium, mais que ce n'est pas un remède miracle. Et on peut citer le contre-exemple du chocolat, dont vous avez déjà peut-être entendu parler avant que cette étude sorte. Des analyses qui étaient publiées par Que Choisir en août 2025 révélaient en effet que dans le chocolat bio, il y avait 4 fois plus de cadmium que dans le non bio. En cause, bah, ce n'est pas les pratiques des producteurs, mais juste l'origine des pays dans lesquels sont produits ce chocolat bio, à savoir l'Amérique du Sud, l'Amérique latine de manière générale, où les sols sont naturellement plus riches en cadmium que par exemple des chocolats issus d'Afrique. Pour autant, bio ou pas, de toute façon, le chocolat, c'est pas le problème, parce que vous en mangez pas 10 kilos par jour, a priori. Ce sont donc bien, malheureusement, les produits à base de céréales, pain, pâtes, biscuits, qui sont les premiers responsables de notre exposition au cadmium. Et dans l'étude, je le rappelle, eh bien, l'impact sur les enfants est assez pointé, et notamment en France, où à cause notamment d'un manque de régulation, un refus de réguler les taux autorisés dans l'alimentation et dans l'agriculture, eh bien, nous sommes exposés 4 à 5 fois plus que les pays voisins. Et tout cela, malheureusement, peut se traduire après sur des problèmes de cancer précoce, etc., etc. Bref, c'est pas jojo. Allez, je termine par un petit truc sympa qui est arrivé dans ma boîte aux lettres. C'est le parc national des Cévennes. Enfin, dans ma boîte mail, pardon, ma boîte aux lettres. C'est le parc national des Cévennes qui vous propose de donner un nom pour les futurs gypaètes barbus des Grands Causses. Les gypaètes barbus, ce sont des grands vautours, hein, parmi les plus grands, c'est le plus grand oiseau d'Europe, avec une touffe de plumes qu'il porte à la base de son bec, d'où le nom gypaète barbu. On appelle ça des vibrisses. Il est très important dans la chaîne alimentaire puisque c'est le dernier maillon du processus d'écarissage, hein. Il vient manger les os. Donc vous en voyez peut-être si vous passez des fois à côté des placettes d'écarissage qui existent sur le territoire. Et ben, il y en a de nouveaux donc, qui vont être réintroduits dans une action du cadre qui est faite dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Life Jeep Act, qui est coordonné en France par la LPO. Donc ils vont être réintroduits ici, dans le parc national des Cévennes, en 2026. On parle de 2 petits, mais peut-être même 4 au total, hein. Pour l'instant ils ne savent pas. En tout cas, vous êtes invités, si vous avez envie, à proposer des noms pour ces oiseaux. Il y a un formulaire en ligne qui est disponible jusqu'au 10 avril sur le site internet du parc. Alors quelques critères quand même. Comme on est en 2026, il doit commencer par la lettre V. Ouais, c'est comme les chiens, tout ça, ils ont des lettres selon les années. Le nom doit faire référence au territoire, à la nature ou la culture locale. Vous pouvez proposer du français ou de l'occitan ou du latin. Et bien évidemment, pas de mauvaise blague et pas de connotation négative. Voilà. Ensuite, une sélection sera réalisée. Puis il y aura une autre étape, un petit vote pour choisir les 2 ou 4 noms définitifs. Voilà. Puis comme ça, vous pourrez passer voir au-dessus de vous un vautour, un gypaète qui porte un nom auquel vous aurez participé.
C'était vraiment très intéressant.
Allez, les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les Nouvelles du Monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.